Donc on va commencer en Epirek Dalet, Mishnahé, chapitre 4, Mishnah 5, page 35. En Botkin, lo minamizbeach ulmala. Donc ça, on avait parlé rapidement la semaine, lundi. On avait expliqué que quand on est en train de faire une vérification, on est en train de vérifier une famille, on avait dit que si on entend sur une famille qu'il y a un problème, il faut vérifier jusqu'à... Donc on avait expliqué qu'il fallait vérifier quatre mères, etc. Bon, on a expliqué que c'est trois générations d'un côté et quatre générations de l'autre côté. Il fallait vérifier les mères. Alors il dit comme ça. Il dit En Botkin, le minamizbeach ulmala. Ça on avait dit le début. On a dit qu'on ne vérifie pas, d'accord, minamizbeach ulmala. C'est-à-dire que si on commence à vérifier une famille de Kohanim, et qu'on découvre qu'il y a. S'il vous plaît. Si on fait une bédica, une vérification. Et on découvre, tenez votre Mishnah, que, par exemple, au deuxième niveau, d'accord, au deuxième niveau, il y avait une famille qui a déjà travaillé au Beth Amikdash, donc ce qu'on appelle le Mizbeach. Donc, En Botki, le Mizbeach Ulmala, on n'a pas besoin de monter plus loin, puisque on va du principe que si la personne a servi au Beth Amikdash, certainement qu'il y a déjà une vérification. Ça, on l'a déjà dit la semaine lundi. Velo Minadouchan Ulmala, également, si un des parents ou des grands-parents était servait comme un Lévi, c'est-à-dire il chantait, d'accord, comme un Lévi au Beth Amikdash, pareil, on prenait des gens que de bonne famille, donc certainement qu'à l'époque on a déjà vérifié. Velo min Sanhedrin ulmala, et ni du Sanhedrin est plus haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on commence à faire une vérification, et on voit que le père ou le grand-père, il faisait partie du Sanhedrin, on considère que comme les gens du Sanhedrin, les gens qui étaient au Sanhedrin, c'était tous des gens qui étaient vérifiés, de bonne famille, donc il n'y a pas de problème. On s'arrêtait ici lundi. Donc toute personne qui a été Cheurzekou Avotav, c'est-à-dire qu'on sait que ses parents étaient, ses parents ou ses grands-parents, d'accord? Donc ils étaient Michotre Arabim Vegabaed Zaka. Donc Michotre Arabim, ça veut dire qu'ils faisaient partie des policiers du public. Policiers du public, on a expliqué, c'était les tribunaux, c'était les petits tribunaux, parce qu'on a expliqué qu'il y avait le grand Sanhedrin. D'accord, c'était le grand Sanhedrin. Il y avait le petit Sanhedrin de 23. Et il y avait les petits badines locaux, comme ce qu'on a aujourd'hui. Ces petits badines locaux, on les appelait les policiers du public. Parce que bon, ça veut dire que c'était en vérité, ils étaient là uniquement pour traiter des cas d'argent. Donc on les appelait les policiers du public. Donc pareil, si on sait qu'on commence à faire l'enquête, parce qu'on a entendu qu'il y a un problème sur la famille. Donc on fait l'enquête, on a dit jusqu'à... Enfin, mais on fait l'enquête, on monte, on arrive deuxième niveau, on voit que, ah, il y avait dans la famille, il y a quelqu'un qui était... comment on appelle ça, qui faisait partie du, pas du Sanhedrin, mais qui faisait partie d'un tribunal local, c'est bon, d'accord, c'est aussi bon, ainsi que Gabaed Zaka. C'est quoi Gabaed Zaka? Gabaed Zaka, ça veut dire c'est un des parents était responsable de ramasser la Tzedaka. Alors ramasser la Tzedaka, on a expliqué qu'il y a il y a deux raisons qu'on peut donner pourquoi ramasser la Tzedaka, c'est un boulot qui demande une grande honnêteté. Premièrement, on a expliqué parce que comme c'est tout est en espèces, d'accord. Donc, si c'est pas quelqu'un de bonne famille, on ne sait pas ce qu'il va faire avec l'argent. Ça, c'est premièrement. Donc, si on sait qu'on commence à monter un niveau, deux niveaux, il y a quelqu'un qui ramasse la tzedaka, on peut être sûr que c'est quelqu'un de bonne famille. Il y a une deuxième raison encore. Une deuxième raison qui est encore plus forte. Quand on dit ramasser la tzedaka, c'est pas simplement toquer aux portes pour demander l'aumône. C'est pas ça. Ramasser la tzedaka, ça veut dire quand les gens ils sont engagés à donner. À la synagogue, par exemple, et qu'ils vont pas donner. On va envoyer des gens à la maison pour les encourager à donner.
Pour les encourager à se rappeler. Pour les encourager à se rappeler.
Et vous imaginez que ces gens-là, ils sont pas très aimés.
Bah oui.
Et quand Rachid explique, Rachid dit, si vraiment cette personne-là avait un problème dans sa famille, vous inquiétez pas que les gens chez qui il va pour ramasser l'argent, ils disent, ouais, sors d'ici toi, espèce de... D'accord. Donc on aurait su déjà. Donc c'est pour ça que... On dit, si la personne, c'était un huissier pour ramasser la tzedaka, tu peux être sûr qu'il est clip de chez clip, sinon tu l'aurais dit.
Ah ouais.
Rabbi Yossi dit, Af mi shaya khatum ed be'achi ayeshana shel sipori. Rabbi Yossi dit comme ça. Il dit, même celui qui a été signé en tant que témoin, be'achi ayeshana shel sipori, c'est-à-dire dans le bed-din, d'une ville qui s'appelait Yeshana. Il y avait une ville comme ça qui s'appelait Yeshana, et cette ville se trouvait à côté de la ville de Tzipori. Alors pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans ce Beth Din là? C'est que ce Beth Din là, quand il prenait un témoin, même pour signer Ketouva ou pour signer quoi que ce soit, il faisait des recherches pour s'assurer que le témoin est de bonne famille. C'est pas obligé. On n'a pas d'obligation. Nous, normalement, quand il y a un témoin qui se présente, on va sur la Chazaka, présomption, certainement que c'est quelqu'un de cachère, on pose pas de questions. Mais lui, ce Beth Din de la ville de Yeshana, qui se trouvait à proximité de la ville de Tzipori, Pas parce que Yishena, on connaît plus aujourd'hui. Tipori, on connaît.
Mais... on sait pas pourquoi. Mais...
Tipori, c'est quoi Tipori?
C'est dans le nord. D'accord? Donc c'est dans le nord d'Israël. Ils avaient... Non, on sait, ce Tipori, on sait où c'est aujourd'hui. Oui. On sait où c'était, en tout cas. D'accord. Mais Yishena, même à l'époque de la Mishnah, ils savaient pas où c'était. Ils disaient, la ville Yishena qui était à côté de la ville de Tipori. Donc là-bas, ils avaient la bonne habitude que, premièrement, donc on enquêtait les témoins. C'est-à-dire, on s'assurait que les témoins étaient de bonne famille. Et deuxièmement, ils faisaient la même chose pour les juges. Ils faisaient des enquêtes, mais très poussées. Donc on dit, quand une personne avait une fois témoigné sur un contrat, par exemple, on retrouve son nom, d'accord, qu'il a témoigné sur un contrat de la ville de Yishena, on dit, s'il a signé sur un contrat, c'est fini, t'as pas besoin d'aller chercher plus loin, certainement qu'il est de bonne famille. Ça, c'est Rabbi Yossé qui a dit ça. Rabbi Hanina, ben Antignos Omer, Rabbi Hanina, fils de Antignos, dit, Af Mishaya Murtav Be Istratia Shel Meler. Dit comme ça, on dit même celui, il rajoute encore quelque chose d'intéressant, il dit même celui qui est inscrit, Beistratia Shel Meler, c'est-à-dire dans les armées du roi. Alors de quelles armées on parle? Le roi, c'est-à-dire quoi le roi? On parle du roi de, écoutez bien, on parle de, comme la Gemara explique, on parle de Chayalot Shel Bet David. On parle des armées, d'accord, des armées de David. On dit que les armées de David, il avait quelque chose de spécial, c'est que lui, dans ses armées, il prenait que des gens de bonne famille. Pourquoi? Il avait un principe très simple, d'accord. Il y avait le principe très simple, c'est que quand quelqu'un, c'est que lui il disait, quand on envoie quelqu'un au front, il faut qu'il ait le maximum de mérite. Le maximum de mérite pour le protéger. Donc déjà, il prenait d'abord des gens bien. Des gens bien, comme ça au moins, leur avérote personnelle ne vont pas les bloquer, ne vont pas les faire tomber au front. Et deuxièmement, il prenait des gens de bonne famille. Comme ça, le fait que eux-mêmes c'était des gens bien, et que leurs parents étaient des gens bien, donc ils avaient le sroute personnel et le sroute à vote, le sroute de leurs parents. Donc c'était une politique qu'il avait comme ça le roi David, qui prenait que des gens que eux-mêmes étaient bien, bon ça c'est évident, et des gens de bonne famille. Des gens de bonne famille qu'on faisait une enquête. Donc c'est pour ça que Rabbi Hanina ben Antignos il nous dit, même une personne sur laquelle on commence à faire l'enquête, on monte un niveau, deux niveaux, pac, on découvre qu'il y a quelqu'un qui était dans les armées du roi David, on considère que cette vérification était une bonne vérification, donc on s'arrête ici.
Quoi, il faut que ce soit juste en descendant, il faut
qu'il y ait... plus,
à quel niveau on remontait
si... Alors on avait expliqué...
Les parents et les grands-parents
On a expliqué que quand on voulait se marier avec un Cohen, on montait à trois niveaux du côté de la mère, et quatre niveaux du côté du père.
Ah d'accord.
D'accord. Donc ça faisait en
quatre niveaux père et mère,
que la mère, on vérifie. Ça fait en tout huit mères. Il y avait un calcul qu'on a
fait. Que la mère.
Oui, que la mère. Chaque fois on vérifie la mère. Donc on a expliqué qu'on remonte trois niveaux du côté de la mère et quatre niveaux du côté du père.
D'accord.
C'est-à-dire chaque fois Mais chaque fois on vérifie que la mère. La mère. Ça c'est quand on veut se marier avec une cohénette, hein. Il n'y a pas besoin de tout ça quand on veut se marier.
J'ai bien compris.
Ils ont dit,
mais là tu dis comment ceux qui étaient inscrits dans l'armée, si on remonte
par
la mère.
Alors moi ce que je suis en train d'expliquer ici, c'est que si on va monter, quand on commence à monter, et on voit que, par exemple, d'accord, on voit que au deuxième niveau, on voit qu'il y a quelqu'un qui a servi dans l'armée. D'accord, qui a servi dans l'armée du roi. Donc ça veut dire qu'il
y a besoin
d'aller chercher plus loin, parce que ce qu'il y avait avant lui, on a vérifié. Lui, il faut le vérifier, mais ce qu'il y avait avant lui, on avait déjà vérifié.
D'accord.
Donc ça, c'est la Mishnah. Ensuite, la Mishnah Vav, elle dit comme ça.
C'est pour ça qu'il demande le ketubot quand on veut se marier.
Ah, mais c'est intéressant que le roi David faisait attention à ça, de prendre dans l'armée, bien que normalement dans l'armée, on aurait dû privilégier des gens forts. Forts, peu importe, s'ils sont de bonne famille. On voit clairement, la Gemara nous raconte comment le roi David, il privilégiait les gens qui étaient de bonne famille et les gens qui étaient bien. D'accord, on sait que comment il s'appelle son chef, le chef Yoav, d'accord. Benayahu ben Yoyada, d'accord. On sait que tout cela, c'était des gens bien. C'était des tzadikim.
La sélection de ceux qui vivaient dans leurs mains et ceux qui vivaient directement dans
l'eau. Oui, exact.
Il y avait plus de 300 à la fin.
Il y avait beaucoup de sélection parce que le roi David, il avait un principe que si quelqu'un tombe au front, d'accord, c'est parce qu'il a pas assez de mérite. C'est le principe qu'il avait. Donc lui disait, moi je prends des gens, c'est pas dit qu'il a gagné toutes ses guerres, mais il dit, moi je prends des gens qui ne tombent pas au front. C'était sa politique. Alors, donc la Mishnah continue, Mishnah Vav, elle dit comme ça. Batralan.
Carrément autre chose vis-à-vis des nations. Eux ils prennent les tueurs, les
dangereux. Oui, ceux qui n'ont pas de sang, ceux qui ont...
C'est complètement fou. La guerre elle est spirituelle.
Batralan. Alors, donc suite à ce qu'on a expliqué maintenant dans ces Mishnayot. Alors, il faut savoir que, comme on a expliqué dans la Mishnah Dalet, Mishnah Gimel, pardon, une femme qui n'avait pas le droit de se marier avec un Cohen. Par exemple, quand une divorcée. Donc une divorcée qui n'avait pas le droit de se marier avec un Cohen et qui s'est mariée avec le Cohen. Ou qui s'est mariée ou qui a eu des relations avec le Cohen. Ça ne change pas. D'accord. Et qu'il y a eu un enfant qui est sorti de ça. Alors la femme d'abord devient halala. la femme, cette femme-là devient halala.
Mince.
Ça, c'est... Mais attention, même s'ils sont pas mariés, même s'ils ont, ils ont juste eu des relations, la femme tout de suite elle devient halala. Et si de cette, de cette union il y a eu un enfant, l'enfant qui sortira sera un halal.
Ah.
Voilà. Mais de cette union. C'est-à-dire la femme devient halal, elle reste halal. Et le, c'est-à-dire c'est une femme qui a été halal, c'est-à-dire profanée. C'est une femme qui est profanée, donc un kohen.
Ça veut dire quoi profanée?
Ça veut dire que ce, puisqu'elle est kohenette, donc on lui impose un certain niveau de kdusha, un certain niveau de sainteté. Comme elle n'a pas gardé ce niveau de sainteté, donc elle est descendue de grade.
Par rapport à le fait qu'elle ait des rapports ou des choses comme ça?
Oui,
ou...
par rapport au fait qu'elle a eu des rapports avec quelqu'un qui lui était interdit.
Et la fille d'un homme profané, c'est quoi un homme profané?
Alors justement. Alors c'est quoi halal? C'est quoi donc
justement,
c'est, justement c'est quoi halala? C'est que cette femme-là qui est halala, s'il y a eu un enfant de cette union, donc que ce soit une union dans le cadre d'un mariage ou pas, s'il y a eu un enfant de cette union, l'enfant qui sort de cette union sort est appelé halal. Comme on a expliqué dans la Mishnah Gimel, dans la Mishnah Gimel on a expliqué un principe intéressant, d'ailleurs on a appris ça aussi dans le chapitre précédent, on a expliqué que quand il y a un mariage, d'accord, quand il y a un mariage, et qui est par Avera, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a un mariage qui a une Avera, comme ici, c'est-à-dire par exemple le Kohen qui est divorcé alors qu'il n'avait pas le droit, on suit toujours, l'enfant suivra toujours le côté le plus défectueux. Vous rappelez ce qu'on avait expliqué? Donc c'est pour ça que l'enfant qui sort de ce couple-là, le Kohen, il est resté Kohen, il n'y a pas de problème. Mais la femme, d'accord, Halala, elle est, donc on suit toujours le plus défectueux, donc l'enfant devient halal.
Il est Cohen, il est
alors notre Mishnah va parler, d'accord, écoutez bien ce qu'on va dire, c'est que notre Mishnah va dire que l'enfant d'un halal garçon, et le petit-fils, et le petit-fils, etc., petit-fils, jusqu'à la fin des générations, tous restent halal. D'accord.
Mais c'est, excuse-moi, halal pour un homme qui est halal, c'est qu'il est le fils d'une femme halal,
oui.
Il peut pas être halal s'il n'est pas le fils. Il est halal par le fait que ça...
Un homme peut être halal que s'il est issu d'une union interdite.
D'accord.
Il n'y a que la femme qui peut devenir halal. C'est-à-dire, chez l'homme, on peut devenir halal qu'en étant issu d'une union interdite. Mais la femme, elle-même, celle qui a eu des relations, la femme
quoi, poète, halal elle devient halal.
Ouais. C'est pas la même chose. Mamzer, c'est quelqu'un qui est issu d'un mariage, voilà, d'une union
interdite avec une femme mariée.
Et
le halal, comment peut être halal?
C'est
avec la tante, tout ce qui est interdit.
Ils sont mariés.
Non.
Le mamzer, on a expliqué la définition du mamzer. D'accord.
On connaît à peu près.
D'accord. Le mamzer, on sait ce que c'est. Mais là, ce qui est intéressant dans le halal, c'est que même si, par exemple, d'accord. Un Kohen, il va avoir des relations avec une femme divorcée. D'accord? Cette femme divorcée, maintenant, puisque cette femme n'est pas divorcée, elle n'est pas mariée. D'accord? Donc, si elle n'est pas mariée, j'ai pas dit que c'est permis, mais ça veut dire que normalement, s'il y a un enfant qui sort de cette union, il n'est pas mamzer.
Un halal, par exemple, une femme qui n'est pas mariée, c'est un halal et un enfant.
Bah oui, toujours.
Ah, ça, c'est une,
c'est la différence. C'est vrai que dans beaucoup de cas, on peut être halal et mamzer en même temps. Mais voilà, dans le cas que je viens de vous dire. Si quelqu'un a eu des relations avec une femme divorcée, et que la femme n'est jamais remariée. Donc il n'y a pas, je veux dire, ça passait pas permis, mais l'enfant qui sort n'est pas mamzer. Mais l'enfant qui sort va être halal. Pourquoi? Puisque en ayant des relations avec cette femme-là, la femme est devenue halal, d'accord, halala pour être précis, et l'enfant qui va sortir de cette union va devenir halal. Très bien. Donc là, ce qu'on va expliquer maintenant.
C'est quoi son statut, cet enfant?
Il fait partie des trucs qu'on avait vu dans la Mishnah.
Ce qu'il faut savoir pour le halal, d'accord, pour le halal. Donc on a expliqué que les garçons halal, c'est jusqu'à la fin des temps. Ça s'arrête jamais. C'est-à-dire que toujours le garçon...
Garçon,
toujours halal, ça s'arrête jamais. Par contre, d'accord, s'il y a eu un de ces garçons qui a eu une fille, d'accord, même après 10 générations, il a eu une fille, donc cette fille-là est halala, et cette fille-là ne peut pas se marier avec un Kohen. Mais, si cette fille-là va se marier avec un Israël, pas avec un Kohen, elle ne peut pas se marier avec un Kohen, elle va se marier avec un Israël, d'accord, avec un Israël, avec un juif non standard, et que de cette union, il y aura un enfant, là, c'est fini, l'enfant est cachérisé, il peut se marier avec un Kohen.
C'est l'homme qui transmet la halalout. C'est
pour ça que, d'ailleurs, on a gardé le mot halal.
Halalout.
La Mishnah dit comme ça. Bat halal zaha, halalout, ouais. Bat halal zaha, psula mina keuna leolam. Donc, une fille d'un halal garçon. Donc le halal garçon, on a dit, ça reste à vie. Maintenant, la fille qui est issue d'un halal garçon, psula mina keuna leolam, elle, d'accord, elle est pasoul, donc elle est inapte à se marier avec un Kohen, leolam, à vie. Très bien. Pourquoi? Parce que comme on a expliqué, même si c'est 10 générations après que ça s'est passé, étant donné qu'elle est issue d'un garçon halal, d'accord, fils après fils, d'accord, elle est interdite à la prêtrise, leolam, à vie. Mais, comme ce que j'ai expliqué, Israël chez Nassa Halala, hein, si on a un Israël qui s'est marié avec une Halala, donc avec cette fille par exemple, donc peu importe que ce soit la première génération, à la dixième génération, à la vingtième génération, on a un Israël qui s'est marié avec cette Halala, Bito, Kshera, la Kehuna. Leur fille, d'accord, sera apte,
les
Kehuna.
Il parle que de la fille.
La fille, non.
Ah non, la fille c'est autre chose, la fille Cohen. Là on parle d'un Cohen.
On parle plus de Cohen là.
Là on parle d'un Cohen.
D'un... Oui, alors c'est quoi le problème?
Pourquoi Bito et on parle pas de s'il a un fils. Il est halal ou pas halal, le fils?
Le fils, est-ce qu'il est halal ou pas?
Le saint Israël avec cette halala.
Non, ça se transmet toujours au fils. Le fils il reprend toujours le halal.
Si c'est le père qui est halal?
Même si c'est la mère qui est halal.
On a dit un fils de halal, ouais. Donc il est halal,
oui.
D'accord, il va se marier avec une Israël.
Oui.
C'est la seule façon... Ah non,
on va cachériser...
Oui, la fille qui est halal.
On parle de la fille,
on va cachériser que la fille, pas le garçon. On va cachériser le garçon.
C'est simple.
Parce que le problème, c'est que le garçon toujours, il reprend ce qu'il a de... Le garçon, il reprend toujours le halal.
Il reste avec ça.
Ah oui, c'est malheureux.
On traîne notre sac.
On avait trouvé une... Vous vous rappelez, on avait trouvé une technique. On avait trouvé une technique la semaine dernière. Trouver une technique pour se marier avec... Enfin, oui. Avec esclave, etc. On avait trouvé une technique pour s'en sortir. Bon. Donc on dit comme ça.
Le même bizarre, il n'y a pas de technique.
Si, justement, il y avait une technique.
Il y a une technique pour le
Il y avait une technique, mais bon, il fallait prendre plusieurs générations, mais il y avait une technique. Donc Israël, Shenassah... Israël, Shenassah, Halala. Alors, donc un Israël qui s'est marié avec une Halala. Donc, oui. Bito, donc la fille qui va sortir de cette union, Kshera la Keuna, elle va être Kachère la Keuna pour la Keuna. Comme la Gemara le dit, la Gemara dit que quand une femme comme ça va se marier avec un Ben Israël, c'est comme si qu'elle est passée, la Gemara elle a une expression intéressante, elle dit que c'est un mikvé de pureté pour les Halalot. Oui, c'est ça en vérité, on l'a kachérisé. C'est un mikvé donc pour les Halalot. Ah, mais, Halal Shenasa bat Israël, si on a un halal, pas une halala, là c'est le contraire. Le cas que je viens de dire ici, c'était une femme qui était halala qui s'est mariée avec un Israël. Maintenant, si c'est le contraire, hein. Si c'est un halal, donc un garçon halal, chez Nassa bat Israël qui s'est marié avec une fille d'Israël, Bito Psula la Keuna, sa fille, la fille de cette union sera Pasoul, sera inapte à la Keuna, comme ce qu'on a expliqué au début. Comme ce qu'on a expliqué au début, on a dit que le garçon il transmet toujours. Il faut que ce soit une fille qui se marie avec un Israël. Mais de l'autre côté, ça marche pas. Continue la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Bat Ger Zahar. Dit comme ça. Il dit la fille d'un ger, d'un converti, Zahar, garçon. D'accord? Donc on a, imaginez-vous que si on a, donc on a un ger, garçon, qui s'est marié avec une. Donc on a un converti qui s'est marié avec une juive normale. Donc, mais l'homme est converti. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Il dit que cette la fille de cette union-là, elle est jugée Kevat Halal Zahar. Elle est considérée comme. Qui va être halal zara comme si elle était la fille d'un halal garçon. C'est-à-dire qu'on considère que le père est entre guillemets problématique et que, attention, on peut se marier avec cette femme-là, tout le monde peut se marier, mais sauf un Kohen.
Puisqu'on l'a dit juste au-dessus.
Oui, justement, c'est ça le chidouche de Rabbi Yehuda. Bon, l'Alakha n'est pas comme Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda, il a un avis intéressant. Rabbi Yehuda, il dit que, lui, il pense qu'en vérité, donc un converti a le même statut qu'un halal. C'est ce que ça veut dire, entre d'autres termes. Un converti, même s'il se marie avec une israélite, le converti, on le considère comme si c'était un halal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas marier un Cohen avec une famille convertie.
Rabbi Yehuda dit, la fille d'un homme...
Attention, j'ai dit sur Rabbi Yehuda, il faut dire ce qu'il dit. Rabbi Yehuda, il dit comme ça. En vérité, c'est parce qu'on dit que... une des raisons pour ce que Rabbi Yehuda dit, on peut dire, parce que la Torah, elle dit qu'un converti jusqu'à 10 générations...
Il peut tomber.
Donc, alors, on l'interdit pas de se marier avec un Israël. Parce que ça, on impose, on va pas aller trop loin. S'il s'est converti, bah au Hachem, tant mieux. Mais... Encore une fois, il faut se rappeler que le Cohen, toujours, c'est la famille des VIP, c'est-à-dire c'est une famille très protégée dans le peuple juif.
Papa.
Donc, Rabbi Yehuda, d'accord. C'est pour ça que Rabbi Yehuda dit, d'après moi, d'accord, un Cohen ne peut même pas se marier avec une fille d'un converti. La fille d'un converti, c'est comme si c'était la fille d'un halal. Ça, c'est ce qu'il dit, Rabbi.
Mais on va voir juste un peu plus loin.
Alors, Rabbi Eliezer ben Yaakov.
Rabbi
Eliezer ben Yaakov. D'accord. Justement, on va voir que pas tout le monde d'accord avec ce que Rabbi Yehuda a dit. Rabbi Eliezer ben Yaakov, hein, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit Israël chez Nassa Guilloret, un Israël qui s'est marié avec une convertie. Donc là, c'est le contraire de ce que j'ai dit avant. Avant, oui, on parlait, avant on parlait d'un converti,
oui, là, c'est
marié. Vous voyez, quand on utilise ces Mishnayot, on comprend pourquoi Ezra il a purifié la Bavel avant de venir en Israël. Ah, vous voyez comment c'est compliqué. Hein. Bah, avec ça, c'est simplifié là. On a raconté que Ezra, avant de monter en Israël, Ezra le scribe, il a pris avec lui toutes les familles problématiques. Toutes les familles problématiques, il les a pris. Il a laissé la terre de Babylone, il n'y avait plus aucun problème. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, moi je monte en Israël, les rabbins vont me suivre, et je ne sais pas ce qui va rester là-bas, quand il y aura des problèmes de mariage comme ça, on ne saura pas qui marie avec qui, il y aura des catastrophes. Donc il a convaincu toutes les familles problématiques à venir avec lui, à part bien sûr tous ceux qui ont suivi. Mais il s'est arrangé pour que toutes les familles à problème le suivent. Donc dit la Mishnah, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, Israël, chez Nasa Gioret, si on a Israël qui s'est marié avec une convertie, Bito Kshera Lakouna, la fille de cette union sera cachère
pour un Kohen.
Mais écoutez bien le contraire.
Voilà.
Le contraire, c'est le cas qu'on a dit dans la Mishnah d'avant. Les guerres chez Nasa bat Israël, un converti qui s'est marié avec une fille Israël, également, Bitok, Shera, la Kauna, leur fille sera apte à se marier avec un Kohen.
C'est exactement le contraire de Rabbi Yehuda.
Donc en clair, ça veut dire quoi? Un converti qui se marie avec une femme Israël, l'enfant qui sort de cette union, d'accord? L'enfant qui sort de cette union est cachère, peut se marier avec le Kohen. Ça veut dire que le contraire de Rabbi Yehuda. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda.
Mais ils passent sous un triangle, ils disent la même chose, mais de façon différente. Ils disent la même chose, ils disent le contraire,
oui,
mais en utilisant des formules différentes.
Oui. C'est, pardon, c'est Rabbi Yehuda ben Yaakov. Aval, mais guerre chez Nasa Guilloret. Ah. Si maintenant, on a un converti qui s'est marié avec une convertie. Là, dans ce cas-là, Bitop Sula Lakouna. Là, Rabbi Yehuda ben Yaakov, là, je suis d'accord, effectivement, leur fille, d'accord, est inapte à la Kehuna. Mais bien entendu, cette fille-là, après, quand elle aura des enfants, etc., elle peut se marier. Mais elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Parce que là, il y avait converti des deux côtés.
Ouais.
D'accord. C'est intéressant, la vie de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit que peu importe que le père ou la mère soit guerre, c'est bon, c'est pas grave. On ferme les yeux. Mais si c'était le père et la mère qui sont guerre, là, l'enfant ne pourra pas se marier avec un Kohen. Ça, c'est la vie de Rabbi Eliezer ben Yaakov.
En résumé, le Kohen se marie avec qui?
Avec un tas de nénettes, hein.
Le Kohen, il peut se marier avec une Kohenette, avec une Lévi, avec une Israël, avec une fille convertie, c'est tout, on s'arrête là, hein, y a pas, c'est tout. Ouais. Le Kohen, parce que s'il serait Lévi, on aurait pu rajouter le Halal, le converti. Le halal et le converti, s'il serait Lévi. Mais un Kohen, il peut se marier qu'avec Kohen, Lévi et fils converti.
Kohen,
ouais.
Kohen, Lévi ou
Kohen, Lévi, Israël et fils converti. Parce qu'on la considère Israël.
Je comprends bien, par exemple, lui, ce matin, on l'a appelé Kohen, ensuite on l'a appelé Lévi. T'as entendu, mais Lévi, il peut se marier avec... Laisse le Kohen à la maison.
Dis comme ça. Continue dans la Mishnah. Echadger vechad avadim et shucharim. Quand on parle d'un converti, d'accord, on ne parle pas simplement d'un converti, on parle que ce soit d'un converti ou que ce soit de avadim et shucharim, d'un esclave qui a été libéré. Alors, un esclave qui a été libéré, bien entendu, on ne parle pas d'un esclave Israël, on parle d'un esclave cananéen, que quand il devient esclave, il prend le statut, il a les mêmes idées qu'une femme. Et quand il quitte l'esclavage, comme on a expliqué la semaine dernière, il a le droit de devenir juif à 100%. Mais bon, quand même, c'est quelqu'un qui n'est pas né juif. Donc, il nous apprend à Bézama Yaakov, il nous dit que quand on parle de converti, c'est pas que converti. C'est, en vérité, ce qui nous dérange, c'est qu'il n'est pas né juif. Donc, c'est converti, il rentre dans cette catégorie, et également cet esclave qui a été libéré, que lui aussi, il a été converti en vérité. C'est une conversion forcée, j'ai envie de dire. Très bien. Donc, Echad Ger, Vechad Avadim Shucharim, Afilu Adassara Dorot. Et on ira jusqu'à même 10 générations. Achete Iman Mi Israël. Donc jusqu'à même 10 générations, toujours ce sera interdit, d'accord, jusqu'à que, c'était Iman mi Israël, il faut que leur mère fasse partie de Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ou bien que leur mère soit convertie, d'accord. Il nous apprend un autre intéressant, Rabbi Eliezer ben Yaakov. Il nous apprend que une femme, d'accord, qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Eliezer ben Yaakov au début de la Mishnah? Je vous rappelle qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit un Israël qui s'est marié avec une convertie, ou un converti qui s'est marié avec une Israël, il a dit c'est bon. Il nous apprend autre chose, Rabbi Eliezer ben Yaakov. Que si c'était un Israël qui s'est marié avec une esclave libérée. Vous suivez? Un Israël qui s'est marié avec une esclave libérée. Dans ce cas-là, c'est pas bon. parce qu'elle ne s'est pas convertie de son propre gré, donc, elle, donc l'enfant qui est issu de cette union ne veut pas se marier avec un Kohen.
Est-ce qu'elle elle a été libérée, elle n'est pas...
Ouais.
Mais on a bien dit que dans la génération, si un garçon va épouser une Bat Israël,
oui.
C'est fini, le cycle est cassé.
Non, une fille va se marier avec un Ben Israël. C'est le contraire.
Jusqu'à ce que sa mère soit fille d'Israël.
Oui, ce qu'on avait dit dans la Mishnah, Vaf.
Oui, mais l'homme sera devenu...
Voilà, oui, Chazak, oui. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Av ger shenasa gioret bitok shera la keuna. Rabbi Yossé dit, d'accord, que même si c'est un converti qui s'est marié avec une convertie, l'enfant qui sort de cette union est kasher à se marier avec un Kohen. Alors, comment elle est là, l'Alakha? On a eu trois avis ici. On a eu l'avis de Rabbi Yuda, qui a dit que carrément, il a dit que la fille d'un converti s'est considérée comme la fille d'un halal. On a eu l'avis de Rabbi Elazar ben Yaakov, qui a dit que non, il n'y a pas de problème. D'accord? Il a dit qu'on peut aller dans tous les... Il a dit que si un des deux parents était Israël, c'est bon. Il suffit d'avoir une affiliation, ça suffit. Affiliation par le père ou par la mère, ça suffit. Mais si, bien entendu, les deux sont convertis, c'est pas bon. Et on a Rabbi aussi qui dit que même s'il n'y a aucune affiliation, même s'il n'y a ni le père ni la mère qui étaient Israël, qui sont guerre, il n'y a pas de problème, l'enfant pourra se marier avec un Kohen. Alors comment est la halakha? La Gemara dit comme ça. La Gemara dit que la halakha est que celui qui vient au Beit Din, qui vient poser la question. Qui vient dire, moi je suis converti, et ma femme est convertie, et on a eu un enfant, est-ce que cet enfant peut se marier avec un Kohen? On lui répondra, non. La halakha sera comme Rabbi Elazar ben Yaakov, en d'autres termes. C'est-à-dire que il faut au moins une affiliation.
On la voit du milieu.
D'accord. Il faut au moins une affiliation. S'il y a zéro affiliation, c'est pas bon. Mais
pour le Kohen,
trois je dis pour la coupe, bien sûr pour le Kohen.
Après
coup. D'accord. Si maintenant quelqu'un s'est déjà marié, d'accord.
Alors
après comme Rabbi Yossé.
Ouais.
Après coup.
Si après coup on le sait.
Ça veut dire qu'on l'oblige pas à divorcer. Et comme le Rambam dit, il dit que les enfants de cette union ils pourront même être Kohen Gadol s'il le faut.
Wow.
C'est une manière de dire que la halakha est vraiment comme Rabbi Yossé. Voilà, bon, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui.